Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le service protestant. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'écoute et d'accompagnement au cœur d'une société de plus en plus égoïste et individualiste. J'aimerais donc tout spécialement accueillir les personnes qui ressentent ce besoin d'être accompagnées, d'être écoutées, d'être acceptées sans jugement. Que cette émission soit à l'occasion d'un nouveau départ si vous en avez besoin. La foi en Jésus-Christ nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard et qu'on a tous besoin d'être aidés et d'être accompagnés. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin le pasteur Christian Tanon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pasteur de l'Église protestante Unie de France, responsable de l'Escale, un lieu d'accueil d'accompagnement spirituel dans le 5e arrondissement de Paris. Pourquoi avoir créé l'Escale, pasteur Christian Tanon? Quel est le public que vous recevez?
Eh bien, c'est une idée que j'avais déjà depuis longtemps, avant même d'être pasteur d'ailleurs. C'est ce qui m'a décidé d'être pasteur, c'est de créer un lieu où n'importe qui peut rentrer, se sentir accueilli, bien reçu, et s'ils ont un fardeau, pouvoir le déposer librement. Et la personne qui est là, la bénévole qui fait la permanence, le ou les bénévoles qui font les permanences, sont là pour d'abord écouter, puis remettre dans la prière le fardeau, parce qu'on ne peut pas le porter sur soi, ce fardeau. Le remettre dans la prière à Jésus-Christ.
C'est un lieu où tout le monde est accueilli, c'est un lieu qui est un petit peu en dehors des églises ou c'est dans une église?
Je dirais que c'est sur le seuil de l'église. Nous avons un soutien moral de l'Église protestante unie de France et en particulier du Conseil régional, mais nous avons aussi c'est une entité juridique autonome qui fait que nous sommes indépendants juridiquement parlant. C'est une association, loi de 1901.
Et donc, dans cette structure, dans ce lieu d'accueil, vous faites ce qu'on appelle de l'accompagnement spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est, l'accompagnement spirituel?
Alors, l'accompagnement spirituel. D'abord, l'accompagnement, c'est marcher avec. C'est pas se placer devant la personne pour lui dire, voilà, c'est là qu'il faut aller. Ou se placer derrière en la suivant. C'est se mettre à ses côtés, marcher en même temps qu'elle. Et l'accompagnement se distingue de la direction, du conseil. Et le côté spirituel, là, il faut quand même en dire un mot, c'est que, en fait, l'accompagnateur est croyant. L'accompagné, en général, l'est, mais parfois est en recherche. Et l'accompagnateur sait qu'il est avec Dieu, que Dieu peut l'aider dans cet accompagnement spirituel.
Et ça, c'est quelque chose de tout à fait assumé. On n'essaye pas de vendre Dieu sans que la personne en soit consciente. On sait que c'est un accompagnement spirituel.
Oui, accompagnement, ça veut dire qu'on ne cherche pas à convertir la personne. On n'a pas même de projet pour la personne. On est en lien, je dirais, permanent avec ce que moi j'appelle l'Esprit Saint. C'est-à-dire que nous sommes, en tant que croyants, convaincus que l'Esprit peut agir dans la personne, mais on ne sait pas comment. Il faut le découvrir ensemble.
Pourquoi a-t-on besoin d'être accompagné?
Mais je crois que on a tous besoin, à un moment donné, quand on a une épreuve, un souci ou une question existentielle, d'une écoute bienveillante. Ça, je dirais, c'est le côté relationnel. Et pourquoi accompagner spirituellement? Parce que je suis convaincu que nous ne sommes pas deux, nous sommes trois, avec Dieu qui est présent dans l'entretien. La personne accompagnée n'en a pas forcément conscience, mais l'accompagnateur, lui, bien sûr, il en a conscience.
On ne peut pas s'en sortir par nos propres forces, on a toujours besoin de passer par un tiers, par un autre pour.
Je ne dirais pas qu'on a besoin absolument de passer par un tiers. Dans la culture protestante, on peut très bien s'adresser à Dieu directement et obtenir une parole, un pardon, etc., sans passer par le pasteur. Mais je crois vraiment qu'on a besoin, il faut oser demander l'aide des frères et sœurs qu'on connaît ou des amis, parce que tout seul, c'est plus difficile.
On remarque dans notre société aujourd'hui qu'on rappelait individualiste, parfois égoïste, que le paradoxalement, donc le besoin et la recherche de l'autre sont très forts et le besoin d'être écouté, d'être accompagné sont très forts. Comment vous l'expliquez ?
Écoutez, moi je m'en remets à une enquête qui a été faite auprès de personnes qui ont été blessées de la vie sur un large échantillon et les résultats de l'enquête sont frappants. Les gens disent ce dont nous avons besoin, ce n'est pas qu'on résolve notre problème. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être compris, écouté et compris. Parce que la plupart des gens ne nous comprennent pas, ils ne comprennent pas ce qu'on a vécu.
Dans notre culture française, on a aussi cette image très, très forte du prêtre qui reçoit la confession du fidèle. C'est un moment parfois associé à de la culpabilité, voire à de la punition. Comment dépasser ce modèle en proposant, en tant qu'Église, un accompagnement ?
Je pense que les gens ont besoin, de temps en temps, de se confesser devant Dieu parce qu'ils se sentent coupables devant Dieu. Et ça, le pasteur que je suis le reconnaît et il m'arrive assez rarement d'avoir à prononcer une parole de pardon de la part de Dieu. Mais le plus souvent, les gens, c'est pas la confession, c'est la confidence. Ils ont besoin de quelqu'un qui, dans toute, bien sûr, toute confidentialité, c'est-à-dire qui garde sa parole, ça c'est très important, ils ont besoin d'être écoutés et compris. Et je reviens à l'accompagnement spirituel avec l'aide de Dieu.
Vous avez parlé de confidentialité, ça c'est quelque chose que vous mettez en avant en début d'entretien ?
Oui, en général, bon, moi en tant que pasteur, les gens savent que je suis tenu au secret. Mais il y a aussi des accompagnateurs non pasteurs qui ont reçu une formation appropriée et qui s'engagent à la stricte confidentialité. Ça va même jusqu'à ne pas dire qui on accompagne.
Dans votre ministère de pasteur, oui. Quelle place a pris l'accompagnement spirituel au fur et à mesure ?
Eh ben, je dirais qu'il a pris une très grande place dès le départ, parce que, d'abord, il faut que je vous explique un peu mon cursus. J'étais cadre dirigeant à l'aérospatiale, qui fabrique les Airbus et autres objets volants. Et à 53 ans, j'ai compris que ma vocation était d'être pasteur. Mais déjà, dans mon manière d'exercer ma profession, les gens venaient souvent me voir et se confier à moi parce que c'est dans mon tempérament d'avoir une écoute bienveillante. Et dès que j'ai commencé mon ministère pastoral, bien entendu, j'ai fait pas mal d'accompagnement spirituel et mon mémoire de maîtrise portait là-dessus.
Est-ce que vous auriez une expérience, une histoire, une belle histoire à nous raconter au sujet d'un accompagnement vécu à l'escale ou ailleurs ?
Alors, j'aurais une histoire qui pourrait vous paraître presque un contre-exemple, tellement ça a pris du temps. C'est un accompagnement qui a duré très très longtemps. C'est une dame à Reims qui avait vraiment... C'était une blessée de la vie, on pourrait dire. Très malmenée dans son enfance, je ne donnerai pas des détails. Et qui est venue me voir, on a prié ensemble. Mais je sentais bien qu'il y avait aussi un besoin d'accompagnement psychologique. D'ailleurs, je l'ai remise entre les mains d'une psy chrétienne et ça lui a fait beaucoup de bien. En parallèle, je lui donnais un accompagnement pastoral. Ça a duré très longtemps et maintenant, petit à petit, elle s'assume et elle est autonome. Et ça, ça me réjouit. Ça a pris combien ? 5 ou 6 ans. Mais ça peut être long parfois.
Votre théorie, c'est que ça a apporté quelque chose de supplémentaire qu'un simple accompagnement psychologique.
Oui, parce que pour elle, c'est aussi pour moi d'ailleurs, on ne peut rien faire de vraiment fructueux sans l'aide de Dieu. Vous savez, je reviens à un passage de la Bible qui est la guérison du sourd muet, oui, par Jésus-Christ.
Alors, c'est un passage qu'on peut lire d'ailleurs, oui, qui se situe dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, des versets 31 à 35.
Je vais le lire. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien.
Alors, à première vue, on n'a pas l'impression que Jésus prend véritablement un temps d'écoute avec la personne.
Eh bien, c'est pas tellement l'écoute, mais je dirais l'empathie. L'empathie, la compréhension empathique de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit mot qui passe souvent inaperçu, qui est le mot « il soupira ». Et si on devait le traduire mot à mot, je dirais presque « il poussa un gémissement ». Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Jésus-Christ, face à un homme qui ne peut que gémir, se met à gémir comme lui. C'est étonnant. Et moi, je l'interprète comme de la compassion. Jésus-Christ est capable d'une compassion infinie. Nous sommes pas capables de 10% ou 1% de sa compassion. Mais voilà que Jésus nous donne quand même l'exemple. Ça veut pas dire la compassion, ça veut pas dire que nous devons souffrir la même souffrance que l'autre. Nous devons nous placer sur son terrain pour la comprendre, cette personne, et comprendre sa souffrance, mais on n'a pas à la souffrir. En revanche, Jésus-Christ, lui, il s'est vraiment approché de cet homme, il l'a touché, de même qu'il a touché les lépreux, au risque d'être contaminé. Eh bien, si vous voulez, je pense qu'il y a là, dans l'exemple de Jésus-Christ, une compassion extraordinaire, et c'est pour ça qu'il a poussé lui-même un gémissement, comme le sourd-muet qui pousse aussi un gémissement.
Et d'ailleurs, juste avant ce gémissement, on a l'indication « levant les yeux au ciel ».
Oui, alors effectivement, Jésus-Christ invoque son Père, parce que là, il est en prière. Il sait que son Père va l'exaucer, mais il l'invoque quand même. Et c'est pour ça que l'accompagnement spirituel se fait avec l'aide de Dieu.
Alors, pasteur Christian Tanon, on parlait justement de cette empathie dans le texte où Jésus a ce soupir, ce gémissement empathique. Il y a aussi une personne à laquelle vous avez puisé beaucoup d'enseignements pour l'écoute et pour l'empathie, c'est Carl Rogers.
Alors, Carl Rogers, c'est intéressant parce que c'est un psychologue américain qui a failli être pasteur et puis finalement, il a décidé d'être psychologue. Et il s'en est tenu uniquement à l'aspect psychologique dans ses enseignements. Et il dit ceci, pour aider l'autre à grandir en tant qu'écoutant, il faut respecter trois principes. Le premier principe, c'est la compréhension empathique, qui peut utiliser la reformulation. Au fond, vraiment chercher à comprendre l'autre, sans le juger naturellement.
La reformulation, c'est...
La reformulation, c'est une façon de bien être sûr qu'on a compris l'autre, et puis lui ouvrir un espace de parole pour qu'il en dise un peu plus éventuellement. C'est-à-dire qu'on reprend ce que l'autre a dit, mais on ne fait pas systématiquement. On est là surtout pour comprendre ce que la personne dit et se placer sur son terrain.
Et lui montrer qu'on l'a bien comprise aussi.
Et lui montrer qu'on l'a bien comprise. Mais ça, la personne le sent vite. Surtout si vous êtes pleinement en écoute, concentré sur l'écoute, centré sur la personne. Le deuxième principe, c'est l'acceptation inconditionnelle de l'autre, c'est-à-dire qu'on le prend comme il est. Il peut avoir le nez tordu, les yeux bleus, les yeux verts, peu importe. Il peut même avoir des idées politiques qui ne sont pas du tout les vôtres. On n'est pas obligé d'adhérer à ce qu'il dit, mais on l'accepte en tant que personne. Et le troisième principe, c'est ce que Carl Rogers appelle l'authenticité de l'écoutant, être soi, parce que l'écoutant, après tout, c'est un homme, c'est une femme, c'est pas un robot écoutant. Et ça donne à l'autre, celui qui... et l'écouter, le principe de réalité. Il a en face de lui ou d'elle quelqu'un qui peut avoir des petites réactions, voilà, c'est tout. Je dirais qu'il faut faire attention aussi aux réactions qu'on peut avoir, parce qu'il ne faut pas non plus envahir l'autre. ou avoir le moindre jugement. Et dans l'accompagnement spirituel, vous savez, on est là devant la personne qui commence par vous déverser toutes sortes de choses, et vous vous dites, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, avec quoi je vais, sur quel bout de ficelle, c'est comme une pelote de ficelle entremêlée, sur quel bout je vais tirer, et c'est pas facile. Le plus souvent, on croit tirer sur un bout, et puis on a beau tirer, puis ça se noue encore plus.
Voilà. Il y a parfois aussi des situations qui sont difficiles, des paroles qui sont difficiles à entendre, même quand on essaye d'être dans l'acceptation inconditionnelle. Une personne qui va, je crois que ça vous est arrivé, avoir des propos très racistes, par exemple, dans l'accompagnement, qu'est-ce que vous en faites ?
Je pourrais peut-être avoir une réaction en disant, c'est vous qui le dites, mais après ça, j'évacue et je passe à autre chose.
C'est vous qui le dites,
voilà.
C'est votre façon d'être vrai,
oui.
Donc dans les convictions de Carl Rogers.
Bon, et puis je ne juge pas la personne, je dis, vous avez votre opinion, j'ai la mienne, mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, c'est vous.
Et donc,
votre expérience.
Peut-être creuser et poser une question sur cette...
Autour de ça, non, c'est pas forcément un bon bout de fil à tirer. Et justement, la question, c'est quel fil tirer ? Et ça, c'est ce que j'appelle le discernement spirituel. Et l'écoutant, l'accompagnateur spirituel, peut vraiment s'en remettre à Dieu, parce qu'il est au fond branché, en quelque sorte, hein, spirituellement parlant. Il est branché et il peut demander à Dieu de l'aide. Au fond, il peut invoquer l'Esprit Saint. SOS Esprit Saint, je suis perdu, qu'est-ce que je dois dire maintenant ?
Alors là,
ça marche.
Là, vous allez vite. Oui. Se connecter à l'Esprit Saint, déjà, ça demande quelques explications.
C'est une question, je dirais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne qui est accompagnant spirituellement a l'habitude de la prière. Et la prière est quelque chose de fondamental dans l'accompagnement spirituel. Pourquoi ? Parce que la prière, c'est reconnaître qu'on est faible devant Dieu et qu'on a besoin de son aide. Tout est là. Si on reconnaît sa faiblesse, si on reconnaît qu'on est mendiant de l'esprit, vous savez la première béatitude, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». On peut le traduire « Heureux », alors c'est une traduction-interprétation, « Heureux les mendiants de l'esprit, qui donc demandent sans cesse l'aide de l'Esprit Saint ». Et nous savons, d'après un autre passage de l'Évangile, Luc 11, verset 13, que toute personne qui demande l'Esprit-Saint est exaucée dans sa prière. Eh bien, heureux le mendiant de l'Esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux celui qui demande l'aide de l'Esprit-Saint dans l'accompagnement spirituel, parce qu'il lui sera venu en aide.
Et alors, c'est aussi une démarche un peu d'humilité,
oui.
De se dire qu'on a besoin de convoquer une autre personne qui est Dieu.
Oui.
Et qu'on n'arrivera pas juste, encore une fois, par nos propres forces, à tout faire.
Au fond, le rôle de l'accompagnateur spirituel, c'est d'aider l'autre à discerner l'œuvre de l'Esprit-Saint dans sa vie. Si je le formule d'une manière un petit peu lapidaire, alors c'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire.
Donc par exemple, la personne va se confier et on peut, en tant qu'accompagnateur spirituel, dire à la personne « Là, je vois que Dieu agit dans ta vie ». C'est aussi simple que ça ou c'est plus compliqué ?
C'est un peu plus compliqué parce qu'on peut se tromper. Je peux dire « Là, je vois que Dieu agit dans ta vie », mais je ne suis pas sûr à 100%. Et donc, je vais le vérifier avec la personne. Je vais dire « Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu crois que Dieu était là au rendez-vous ? Tu me parles d'une expérience que tu as eue ? Tu as été très touché à un moment donné dans ta vie. Il y a eu un tournant. Est-ce que Dieu, à ton avis, était là au rendez-vous ? Et la personne peut réfléchir à ça.
Alors tout à l'heure, vous parliez de prière comme fondement de cet accompagnement spirituel. Comment vous déployez dans votre méthode la prière ?
Eh bien, je dirais qu'avant l'entretien, je prie quelques minutes pour remettre cet entretien entre les mains de Dieu, ça, c'est comme un pasteur qui remet sa prédication à préparer à Dieu ou qui remet un culte à Dieu juste avant le culte. Ça, c'est relativement classique. Pendant l'entretien, si la personne n'est pas habituée à la prière, on va pas lui proposer de prier parce qu'elle sera peut-être un petit peu gênée. Mais on peut quand même, et c'est ce qui se passe à l'Escale souvent, hein, ce lieu d'accueil qui est ouvert tous les jours, proposer à la personne, si vous avez quelque chose à demander à Dieu, qu'est-ce que vous lui demanderiez ? C'est une question très facile à poser. Et la personne va dire, voilà, quelque chose, voilà, je demande ça. Et après, l'accompagnant va, dans la prière, remettre cette demande. C'est tout simple.
Et donc ça, c'est une première étape de prière.
Oui, et puis on peut prier après l'entretien, qui est une prière d'intercession. Pourquoi ? Parce qu'entre deux entretiens, comme dit sœur Myriam, qui était prière de la communauté des diaconesses de Reuilly à Versailles, et qui a fait beaucoup d'accompagnement spirituel, et qui a même lancé une formation à l'accompagnement spirituel, elle dit, entre deux entretiens, les anges continuent à travailler dans le cœur de la personne. Ce qui fait que quand on passe d'un entretien à l'autre, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on peut par la prière demander, en intercession, prière d'intercession, demander à Dieu d'aider cette personne à évoluer, à grandir dans la foi.
Intercession, ça veut dire prier pour...
Pour la personne.
Pour la personne.
On prie pour la personne, c'est pas besoin d'être très précis, mais on remet la personne à Dieu.
Donc là, on voit que le moment de l'accompagnement spirituel est entouré de prières.
Oui.
Et pendant l'accompagnement ?
Et pendant l'accompagnement. Alors, comme je vous disais, l'accompagnateur, parfois, est un peu perdu. Il ne sait pas quoi. Comment poursuivre l'entretien ? Il peut y avoir un silence assez long. Et il peut dire, écoute, Seigneur, là, viens à mon aide. SOS Esprit Saint. C'est quelque chose qui dure un quart de seconde, qui est intérieur. Et qui met vraiment à tous les coups, donne des résultats. Ça, je peux en témoigner.
Alors, ça crée une situation très complexe dans la relation d'écoute, puisque
oui.
vous êtes en train d'écouter une personne. Mmh. Parfois, intérieurement, vous êtes en train de parler à une autre personne qui est Dieu, qui aussi, par l'Esprit-Saint, peut vous parler. Ça devient complexe, tout ça.
Et c'est encore plus compliqué, parce que c'est la triple écoute. C'est-à-dire que vous écoutez la personne, c'est ça le plus important. Vous êtes en lien avec Dieu qui peut vous aider. Et vous vous écoutez vous-même. Surtout, vous gérez vos émotions éventuelles. Parce que la personne va dire quelque chose, qui va parler par exemple d'un malheur qui est arrivé dans sa famille, et puis ça évoque pour vous aussi un malheur semblable, et vous allez tout d'un coup avoir une émotion. Et il faut la gérer, cette émotion. Il ne faut pas qu'elle vienne empiéter sur l'écoute. Et donc, c'est l'écoute de soi aussi.
Et si on détecte qu'il y a quelque chose qui nous trouble vraiment fortement dans une situation d'écoute, ça peut arriver aussi de mettre un peu fin à un entretien.
Oui, ça peut arriver. Il peut y avoir aussi des phénomènes, je dirais, de dépendance qui peuvent se créer. Une fois, j'accompagnais une jeune maman qui avait des gros soucis le père de l'enfant est parti, elle était seule, je l'accompagnais. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle avait besoin d'un père de substitution. Et que j'étais ce père de substitution. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Je lui ai expliqué pourquoi. Elle a dit, oui, c'est vrai, là, il y a une relation trop forte entre nous.
Et c'est l'occasion de redire que votre approche d'accompagnement spirituel peut être complétée par une psychothérapie classique que vous pouvez vous-même proposer, encourager la personne à aller consulter un professionnel et que vous ne jouez pas aux apprentis psychologues. Chacun a son métier.
Chacun son métier. Néanmoins, lorsque quelqu'un parle, il parle dans son entier. C'est-à-dire qu'elle, c'est une personne et donc vous avez à écouter toute la personne et pas seulement les côtés spirituels de la personne. Vous écoutez toute la personne. Mais vous n'allez pas creuser, je dirais, comme le ferait le psychologue, les troubles de l'enfance, par exemple, qui expliquent les troubles actuels. C'est pas notre rôle. Néanmoins, si elle en parle, on l'écoute, bien entendu.
Pour finir, j'aimerais vous interroger sur ce qui sous-tend finalement toute cette démarche d'accompagnement spirituel. Et c'est quelque chose qu'on a vu dans le passage de la Bible qu'on a étudié sur la guérison du sourd.
Oui.
Si jamais il y a un accompagnement spirituel devant Dieu, c'est qu'on trouve une guérison aussi en Dieu, une guérison intérieure, même pour certains extérieure. C'est un peu mystérieux, beaucoup de gens n'y croient pas. Comment vous l'expliquez, comment vous en parlez de cette guérison possible dans la foi ?
Eh bien, je dirais que, d'abord, si on regarde les pages d'Évangile, on voit que Jésus-Christ lui-même cessait de faire des guérisons. Et il y avait une guérison spirituelle, une guérison physique. Tout ça était finalement, on faisait un tout. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas tous, je dirais même, c'est plutôt l'exception, dépositaires d'un don de guérison. Je ne suis pas sûr moi-même d'avoir un don de guérison, Mais j'ai des collègues pasteurs qui ont reçu ce don de guérison. Ce qu'il faut surtout, c'est être resté humble hein, et ne pas se croire gourou parce qu'on est capable de, qu'on est capable. Je dirais qu'on a reçu ce don de guérison qui bien sûr vient de Dieu. Mais je crois personnellement que toute personne qui a reçu une formation à l'accompagnement spirituel est capable, avec l'aide de Dieu encore une fois, d'aider la personne à sortir soit d'une emprise, soit d'une addiction, que ce soit morale ou spirituelle, ou physique même, l'aider, je dis bien. Mais ce qui est décisif, c'est quand même l'action de Dieu, sans bien sûr oublier l'action du corps médical, lorsque c'est nécessaire. Mais pour moi, c'est pas nous qui guérissons, c'est Jésus-Christ qui guérit, je dirais comme ça.
Donc ça, c'est un peu ce qui fait l'approche unique du christianisme sur cette question, c'est qu'il n'y a pas de guérisseur, mais il y a des personnes par qui passe une guérison de Dieu.
Oui, et pas seulement guérison, mais aussi libération. Parce que quand je parle d'emprise, il peut y avoir des emprises psychologiques, mais il peut y avoir aussi des emprises spirituelles, ça peut arriver. Et c'est là où il y a des personnes que les catholiques appellent exorcistes. Il y a quelques personnes dans le milieu protestant qui ont reçu ce don de libération et qui parlent donc avec une autorité que Dieu leur a donnée et qu'ils reconnaissent. Ils sont au fond des serviteurs inutiles et ils peuvent donner une parole de libération à certaines personnes qui en ont vraiment besoin. Mais c'est quand même assez exceptionnel.
Le fond de cette discussion, donc, c'est que selon vous, selon votre témoignage, on peut trouver en Jésus-Christ, dans une foi, au-delà d'une conception peut-être très rationnelle, une guérison et une libération.
Oui. Et je crois aussi que l'accompagnateur spirituel a besoin impérativement d'une formation appropriée et a besoin lui-même d'être accompagné spirituellement.
Merci beaucoup, Christian Tanon, d'avoir été avec nous pour discuter de l'accompagnement spirituel. Vous êtes pasteur de l'Église protestante Unie de France et responsable de l'Escale, un lieu d'accueil d'accompagnement spirituel dans le 5e arrondissement de Paris, au 47 rue Henri Barbusse. Et vous trouverez plus d'informations sur le site internet www.lescaleportroyal.com. Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez au service protestant 47 rue de Clichy 75 009 Paris. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestant-au-pluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant « Service protestant ». Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivi à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wagnin. Bonne journée à vous sur France Culture.